Okay, this is Zelurad, Zelurad, the cops are on the main road, the cops are on the main road, les Schtroumpfs arrivent, les amis, force à vous, amour à vous, courage à vous, sachez que on peut les voir en tout cas sur la route principale. C'était Zelurad, toujours un plaisir de vous tenir informé. N'oubliez pas que nous sommes le camp des gens qui trouvent le concept de garder une terre vivable intéressant, ce qui fait de nous les gentils, j'ai envie de dire. Allez, bisous.
Bombo, 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 c'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Je me suis branché sur Zelurad et effectivement, je les ai trouvés bien sympathiques, les zadistes de la colline du Mormon, dans le massif jurassien du canton de Vaud, en Suisse. Et je suis allé les rencontrer pendant les trois journées de mobilisation organisées à Nyon pour les premiers procès contre les zadistes. Et c'était joyeux. Ils avaient occupé une maison sur la colline convoitée par le grand cimentier suisse Holcim pour s'agrandir encore. Holcim, qui a fusionné en 2015 avec le cimentier français Lafarge, pour devenir le leader mondial des matériaux de construction. Parce que pour faire du ciment, beaucoup de ciment, il faut du sable, beaucoup de sable, on en a parlé la semaine dernière, et du calcaire, beaucoup de calcaire aussi. Et la colline du Mormon, elle est faite de roches calcaires.
France Inter.
C'est
bien.
Bien.
Demain.
Aujourd'hui, on a une matinée de jeux devant le tribunal, donc on a différents jeux, le jeu zapatiste, et puis sinon différents jeux. On a fait des pyramides humaines pour symboliser le bloc de béton. Sinon, tous les après-midi, on a des tables rondes. Hier, c'était une table ronde sur les résistances au béton, aussi avec des universitaires. Aujourd'hui, on a une table ronde sur la répression avec des juristes. Mais on voit qu'il y a une ambiance joyeuse, hein, ouais.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est pour dire que la joie, elle est de notre côté, même si on fait face à un constat assez triste sociétal. C'est un peu un marathon, quoi, de le militantisme écologique, mais c'est joyeux et surtout c'est pour le bien commun. Voilà.
Tribunal d'arrondissement de la Côte. Il y a un petit groupe là de jeunes militants, de jeunes citoyens vaudois ou helvètes qui font les poules devant l'entrée du tribunal. Il y a aussi des jeux de chamboultou avec des boîtes de conserve. Alors c'est des effigies et des forces de l'ordre avec casque et matraque qu'il faut faire tomber, des pelleteuses. Donc là on est devant le tribunal, hein, c'est la deuxième journée.
Ouais, c'est la deuxième journée de ces premiers procès de la ZAD de la colline, qui était une ZAD contre une extension de carrière de la Farge Holcim. Et puis, il y a certains militants qui risquent 2 à 3 mois de prison pour avoir simplement occupé la colline et été pris sur une corde, sur une cabane, et qui risquent 2 à 3 mois de prison parce que, au début, en fait, ils n'ont pas donné leur identité parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas besoin de savoir leur identité et qu'eux, ils revendiquaient leur action et qu'ils n'avaient pas envie de dire à la justice leur identité. Mais du coup, aujourd'hui, il risque de être en mode prison pour ça. Et l'ONU a même en fait déclaré son inquiétude, a envoyé une lettre auprès du gouvernement suisse pour déclarer son extrême inquiétude de cette répression absurde sur une réunion pacifique qui a de l'ordre de la liberté d'expression.
Il y a eu 7 mois d'occupation contre l'extension d'une carrière, c'est ça, d'Holcim.
Exactement, ouais, sur le plateau de la Birette, qui est une partie d'une colline, la colline du Mormon, qui se situe du coup à Éclépan en Suisse et qui est une colline extrêmement importante. Donc déjà, elle a une grande importance historique parce qu'elle est un des sites celtes les plus importants en Europe. Et sinon, c'est un couloir de faune et de flore entre les Alpes et le Jura, qui sont les deux chaînes de montagnes. Il y a des microclimats, une biodiversité rare aussi sur cette colline. Donc elle est défendue depuis des dizaines d'années par des associations locales. Mais ça fait plusieurs années que du coup, les cimentiers de la Farge-Holcim explosent et arrachent des bouts de cette colline pour en faire du calcaire.
Et plus tard du ciment, quoi, c'est
plus
ça.
Plus tard du ciment, ouais. Voilà, ouais, c'est une industrie de béton. La Farge-Holcim en Suisse aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'industrie directe la plus polluante. Donc c'est la première industrie la plus polluante de la Suisse, et puis rien que ces trois industries, elles mettent 6%, je crois, du CO2 en Suisse.
Donc là, il y a 3 jours de mobilisation qui sont prévus, et pour soutenir vos camarades qui sont prévenus, qui sont poursuivis, mais aussi pour dénoncer cette aberration écologique, quoi, c'est ça.
Effectivement, moi, je dirais qu'il y a 3 choses. Il y a dénoncer déjà l'acharnement en fait, aussi de l'État à travers les procureurs qui veulent vraiment tenir aux 3 à 4 mois de prison ferme pour des gens qui ont simplement occupé cette colline et tenté de dénoncer l'exploitation de la carrière. Et il y a une deuxième chose, c'est la lutte contre le béton, de rappeler en fait pourquoi c'est une aberration écologique de continuer à être autant dépendant du béton et d'exploiter cette colline qui est si importante. Et puis je dirais un troisième axe, c'est de reparler de la cause plus générale du réchauffement climatique, de la situation d'écocide mondialisé, et de pourquoi du coup c'est important de se battre et d'avoir des actions qui parfois enfreignent la loi, que c'est tout à fait normal et légitime que les gens qui font ça défendent le bien commun et essaient de préserver un avenir pour l'humanité. Donc en fait, de revenir sur ces questions vraiment globales, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue, on est proche d'un point de basculement, on ne pourra plus avoir d'action en fait, et que ce sera déjà trop tard, qu'on sera déjà face à l'extermination de l'humanité. C'est les rapports scientifiques, les derniers rapports du GIEC le disent aussi. Enfin, vraiment, il y a une menace pour l'humanité, c'est une crise qu'on n'a jamais vue, et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a des procureurs ou une justice ou des défenseurs de l'État qui n'arrivent pas tellement à se rendre compte que leur droit ne doit pas être appliqué comme dans tous les cas, parce qu'il y a une situation exceptionnelle de risque mondial pour l'humanité en fait. Et puis ça, on essaie vraiment de le marteler et de dire qu'aussi on doit changer vraiment profondément notre système économique. On pense que c'est pas possible d'avoir une viabilité avec le capitalisme qui exploite la planète et qui a besoin de croître. On pense qu'il faut changer de système économique et arrêter de voir la nature comme une ressource à exploiter.
Tu parles d'acharnement parce que justement Holcim a retiré sa plainte, hein, c'est ça?
Oui, effectivement. Bon, c'est une manœuvre stratégique pour eux aussi parce qu'ils l'ont retiré après que soit passé déjà le délai d'opposition. Donc en fait, s'ils l'avaient retiré avant, il y aurait eu moins de soucis, mais en fait, ils ont attendu que le délai d'opposition soit échu pour retirer leur plainte. Donc ils se lavent un peu les mains, et nous ici, on rappelle quand même que c'est aussi le procès d'Holcim, d'ailleurs on a fait une pièce de théâtre, Zadis, là-dessus, que c'est aussi le procès d'Holcim, de cette multinationale du béton. Mais c'est vrai que la justice cherche à maintenir des peines de prison ferme alors qu'il n'y a même plus de plainte en fait, donc il n'y a même plus de chef d'accusation de violation de domicile.
La ZAD de la colline est évacuée depuis 3 ans. Face à la lenteur légendaire des institutions suisses, les indices n'ont pas pu être jugés avant que ne survienne le naufrage de la civilisation vaudoise. Dans ce qui était autrefois le territoire du canton de Vaud, les habitants se réorganisent peu à peu en petits groupes, développant leur propre mode de vie communautaire. La pièce que vous allez voir est une fiction. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé ou existant ne serait que fortuite.
Alors on est devant le tribunal, tu te mobilises toi aussi pour cette cause?
Ouais, bah moi je suis venu en soutien depuis la France, je m'appelle Richard de la Fontaine. Et moi je suis venu aujourd'hui parce que je voulais soutenir les ZADIS, c'est la première ZAD qu'il y a eu en Suisse et qui s'inspire un petit peu de ce qui s'est passé en France aussi avec les zones à défendre. Ce qui est assez original, c'est que la plainte a été retirée par Holcim au niveau de la violation de propriété. Et donc en fait, il se retrouve jugé pour juste en fait l'entêtement d'un procureur. Donc finalement, c'est aussi ça, c'est dire aussi que ce procès est politique, parce qu'on voit aussi par exemple que Holcim a été condamné aussi par rapport à des soutiens du financement du terrorisme, et jamais il y a eu des condamnations à la prison ferme. Il y a eu seulement une amende de 20 millions d'euros. Mais cette amende, comparée au chiffre d'affaires de 30 milliards, c'est vraiment totalement absurde et c'est pas du tout à la mesure de quelque chose qui pourrait vraiment les contraindre ou leur faire mal.
Alors, je vois ici par exemple un rapport de police écrit lorsque la vraie loi était encore en vigueur. Des lois comme l'interdiction de se dissimuler le visage, ou alors la loi fédérale MPT sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme.
Ah non, cette histoire de terrorisme, on a réglé l'affaire. Vous parlez des pots de vin pour Daesh en Syrie, on a payé les amendes en 2022.
Tranquille, c'est pas encore ton tour. Pas trop endormi.
Voilà, donc...
Enfin, moi, je parlais béton et capitalisme, enfin le lien qu'il y a entre les deux.
Il y avait une table ronde sur les méfaits du béton.
Sur la résistance au béton.
Sur la résistance au béton.
Et les méfaits post-Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. et le capitalisme et à quel point l'un a entretenu l'autre et l'autre a entretenu l'un, en quelque sorte. J'ai un peu essayé d'établir ce lien entre ce matériau qui permet cette expansion gigantesque des infrastructures, des environnements bâtis, donc des villes, qui sont les premières causes de la sixième extinction de masse, qui est aussi une raison de protéger ces espaces. Mais il y a deux raisons importantes qui sont pas seulement protéger la faune et la flore, mais aussi lutter contre ces géants du béton qui rasent tout ce qu'ils peuvent et qui construisent et vendent tout ce qu'ils peuvent, quoi. Et il y a six cimenteries, en tout cas de la Fargeolcim, qui sont sur le territoire suisse. Ça en fait le premier pollueur sur le territoire suisse. C'est une tonne de CO2 produite pour une tonne de béton produite. Donc le ratio est gigantesque. C'est presque une aberration de continuer à utiliser. Enfin, c'est une aberration de continuer à utiliser ce matériau, sachant qu'on doit tout de suite, au plus vite, faire descendre nos émissions de CO2.
Construire comment alors? Vous y réfléchissez?
Oui, on y réfléchit. Moi, j'y réfléchis beaucoup parce que je suis architecte de profession. Évidemment, il y a plein d'alternatives. Enfin, moi, je m'oriente plus vers le fait qu'il faut moins construire plutôt que maintenir le marché du logement et l'utilisation de la construction comme outil pour rentabiliser, pour toucher des rentes et pour investir son capital. D'en finir avec ces marchés-là, ça permettrait de construire beaucoup moins, beaucoup mieux. Et du coup, ce serait surtout décroître l'expansion, hein, donc ne plus s'étendre partout. Et puis ensuite, les matériaux, on peut remplacer par du bois, on peut remplacer par de la terre, on peut remplacer par de la paille, on peut remplacer par tout un lot de matériaux qui sont biosourcés, qui peinent à émerger dans le marché, parce que le béton est moins cher, plus facile à mettre en œuvre. Enfin, le béton a vraiment éradiqué toute particularité dans l'architecture, parce qu'il était plus simple et moins cher. Et ce qui fait qu'en fait, on a aussi perdu toutes les capacités à s'adapter au climat des régions dans lesquelles on construit, que ce soit dans les pays qui sont plus désertiques et plus chauds. C'est l'arrivée de la climatisation qui est un des plus gros pollueurs mondiaux. Et en Suisse, c'est aussi la régulation hygrothermique des bâtiments qui est une grande chose qui est demandée aux architectes et qui demande de faire des flux avec des machines électriques pour extraire l'air, pour remplacer l'air. Alors qu'utiliser la terre et la paille, par exemple, ça régule l'humidité, ça régule le confort hygrothermique des habitats. Et en fait, c'est des maisons qui sont passives. Enfin bref, il y a toute une panoplie de méthodes qui sont à l'opposé du béton et qui sont dans du bon sens en quelque sorte. C'est important de proposer autre chose, mais en fait ça suffit pas puisqu'il faut changer de modèle et puisqu'il faut aller à l'encontre de cette production et cette marchandisation du bâtiment et cette production à outrance. On peut pas juste proposer des alternatives, quoi. On doit aussi lutter pour changer le modèle qui produit. Enfin, pour moi, c'est une nécessité d'être à la fois dans la lutte, à la fois dans la proposition d'alternatives.
Je récapitulerai moi-même les peines retenues contre vous et vous tous, en fait, hein, car vous êtes collectivement accusés des faits suivants. Premièrement, violation de domicile, article 186 du Code des procédures pénales. Dommage à la propriété, article 144 du Code des procédures pénales. Insoumission à une décision d'autorité, article 292 du Code des procédures pénales. Empêchement d'accomplir un acte officiel, article 286 du Code des procédures pénales. Et puis enfin, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires de l'État, article 282 du Code des procédures pénales. Tout ceci sans qu'aucune procédure judiciaire n'aboutisse, hélas à cause du malencontreux anéantissement du système capitaliste que personne n'avait vu venir. Et qui malheureusement nous a rassemblés.
Là, les portes s'ouvrent.
Antoine Chao. Voilà.
Les portes s'ouvrent et ça y est.
C'est.
C'est les derniers prévenus qui sortent, enfin de la journée en tout cas.
Bien.
Bien.
Il y a de la musique.
Pour.
Le collectif d'accueil, plusieurs dizaines de personnes.
Demain.
Vous vous présentez ?
Sur France Inter.
Philippe Cura, avocat à Genève.
Alors,
vous êtes d'affreux journalistes ?
C'est ça,
ouais.
Affreux.
Ouais.
Affreux. Non, moi, c'est Libre Radio. Et
moi, c'est Radio France.
Radio France
ouais, je suis venu de Paris ce matin. Ouais. J'ai pris le train.
Radio France. Et la France s'intéresse à savoir.
Que puis-je pour
alors,
vous
comment ça s'est passé, cette deuxième journée, alors?
Alors, on a deux audiences qui sont en parallèle, comme hier. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans l'autre, puisque je n'y étais pas. Mais en ce qui nous concerne, ça s'est passé comme c'était attendu. C'est-à-dire que le ministère public a continué à nous dire que les oppositions de personnes non identifiées n'étaient pas valables et qu'à partir de là, les ordonnances pénales étaient rentrées en force et qu'il n'y avait rien d'autre à dire.
Donc là, il y a un deuxième prévenu, c'est ça?
C'est une amendante qui sort.
D'accord.
Effectivement. On a, dans un premier temps, mis en avant effectivement les droits fondamentaux à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Tout ceci était particulièrement pacifique. On a mis évidemment en avant aussi la situation climatique, la situation propre à la colline du Mormont, à la biodiversité qu'elle recèle, à la nécessité de sa protection. On a mis aussi en avant les conséquences politiques à l'action, puisque c'est grâce à la ZAD qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été portées au plan politique, qu'il est admis par tous les partis politiques que la ZAD a permis de remettre au centre de la discussion la situation du Mormont, et qu'à partir de là, il y avait quand même là des grands principes qui devaient prévaloir. Quant au reste, les infractions qui sont retenues de violation de domicile ne peuvent pas, à notre sens, s'appliquer parce que Holcim a déposé plainte mais l'a retirée. Comme ça se poursuit que sur plainte, il y a un obstacle là définitif à l'action pénale. Holcim avait mis les terrains en bail à ferme ou en prêt à usage à des agriculteurs, donc elle n'avait pas la légitimité pour déposer plainte puisqu'elle n'était pas lésée. Et puis, elle n'avait même pas la légitimité pour requérir l'évacuation de la ZAD puisqu'elle n'avait pas la qualité pour agir puisqu'elle n'était pas privée dans sa possession, possession qui avait été remise aux agriculteurs. Donc la décision d'évacuation pour nous est illégale, et à partir de là, l'intervention de la police est sans base légale. Et elle est donc absolument illégale aussi. Donc on n'a pas d'opposition possible aux actes de l'autorité et on n'a pas d'insoumission à un acte de l'autorité non plus. Donc on a plaidé effectivement pour ces motifs l'acquittement complet. Vous savez, moi je préside en parallèle le conseil de fondation de la Fondation Martine & Hals. Ça fait presque 30 ans que nous remettons des prix à des activistes des droits de l'homme. Et en presque 30 ans, on a remis des prix à 57 personnes dans 40 pays différents, donc qui couvrent toute la planète dans toutes les activités de défense des droits de l'homme possibles. Et j'ai observé qu'il y avait un point commun entre toutes ces personnes, l'expérience de la répression pénale. Et on a ici exactement la même situation. C'est-à-dire que les activistes doivent être réduits au silence par des actions pénales qui sont illégitimes. Et je pense qu'on a, de la part des autorités pénales vaudoises, un emballement dans la répression. On a une répression totalement imbécile qui manque totalement à prendre en considération les valeurs fondamentales de notre ordre juridique, c'est-à-dire les libertés fondamentales, mais également qui manque totalement à prendre en considération la situation climatique actuelle, et en particulier pour ce qui nous occupe ici, la situation du Mormont au niveau de la biodiversité.
Le premier verdict sera rendu lundi. Et quand le procureur montre les dents, le président du tribunal reconnaît, lui, que la cause est juste et que oui, il y a urgence climatique. Vous trouverez toutes les infos sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast.